Bulle d'histoire.
Hein ?
Stéphane Dubreuil.
Waouh !
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées.
Bonjour à toutes et à tous et je suis vraiment extrêmement heureux, ravi, enchanté de vous retrouver toutes et tous pour une quatrième saison des Bulles d'Histoire. Aujourd'hui, nous ne sommes pas avec, ni avec une autrice, un scénariste, une coloriste, une éditrice, mais avec une libraire. Une libraire que j'aime beaucoup, sinon évidemment je ne serais pas venu jusqu'ici. Je suis avec Carianne, on est dans la librairie Vignette, une magnifique librairie. Bonjour Ariane, je commence toujours mes bulles d'histoire en demandant aux gens qui êtes-vous et que faites-vous ?
Eh bien, je suis libraire, en effet, donc je m'appelle Ariane, je suis une des patronnes, je dis une des patronnes puisque nous sommes trois femmes, à diriger la librairie Vignette. La librairie Vignette, c'est une librairie spécialisée bande dessinée qui est dans le 19e arrondissement de Paris, pas très loin du bassin de la Villette, au 49 avenue Jean Jaurès exactement, et c'est une librairie qui a ouvert le premier jour du deuxième confinement, fin 2020.
Donc un beau projet qui marche super bien parce que l'endroit est magnifique, la proposition éditoriale est vraiment très très riche, on est plus sur du roman graphique que sur du blockbuster, ou même si évidemment il y en a. Hein.
Voilà, le but c'est qu'on a toutes des goûts très variés et on sait que les lecteurs aussi, donc on met en avant tout ce qui nous plaît, que ce soit en effet des séries déjà assises ou des jeunes auteurs, des thématiques un peu particulières ou des graphismes qui nous font accrocher directement.
Alors on parlait juste avant de commencer l'émission du fait qu'il y ait très peu de femmes libraires BD.
C'est vrai, on n'est pas nombreuses, on est encore moins nombreuses à être directrices ou gérantes ou présidentes de librairies. Ici on est trois et on est toutes les trois gestionnaires à part égale, donc c'est une librairie gérée en collaboration complète. Et on est en effet relativement peu nombreuses encore à gérer des librairies. Pourtant, on est de plus en plus nombreuses à en lire, donc j'espère que les choses vont évoluer avec les années.
Bon, ça devrait. Donc on va commencer cette nouvelle saison des Bulles d'Histoire avec un petit panorama tout petit, parce qu'il y a des centaines et des centaines d'albums qui vont sortir, mais quand on s'adresse à une bonne libraire, on a des bons conseils. Donc je vois que tu as une pile, t'en as 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y aura peut-être une petite surprise à la fin, mais en tout cas, 6 albums absolument incontournables en cette début de saison éditoriale, et donc 6 ou 7 cadeaux de Noël potentiels. Par quoi commençons-nous ?
Alors comme tu dis, c'est une année hyper riche cette année, entre septembre et décembre, il y a toujours beaucoup de choses qui sortent, encore plus cette année. Donc j'ai fait une petite sélection de choses qui sont à la fois très belles et qui sortent un petit peu du lot. Et on va commencer avec Gauloise, de Igor et de Andrea Serio, chez Futuropolis. Gauloise pour la marque de cigarettes, donc ça vous pose un petit peu l'atmosphère. On va suivre deux jeunes Italiens qui au début ne se connaissent pas, qui par des hasards de leur destin vont se retrouver à changer de ville et à travailler pour des gens pas tout à fait honnêtes, et qui vont se croiser à l'occasion d'un contrat que les deux ont en commun. Je ne vous en dis pas plus sur le contrat. Donc à lire dans la BD.
C'est un polar, en fait.
C'est un polar, mais avec un graphisme, qui est avec un espèce de pastel de crayon de couleur qui est assez incroyable. Andrea Serio, il a des cadrages, il a des pages, il a des couleurs qui sont vraiment remarquables. C'est un plaisir à lire, mais c'est un plaisir surtout à feuilleter. C'est quelqu'un qui fait des BD qui ne sont pas bavardes, mais qui sont vraiment riches en dessin et en ambiance. C'est vraiment le genre de BD sur lesquels on se laisse bercer avec des pages qui sont magnifiques et qu'on aimerait juste encadrer au mur.
C'est quasiment un polar poétique.
C'est un polar tout en non-dit, c'est un polar aussi avec une espèce de fraternité très particulière entre gens qui pourtant, dehors de ça, n'ont pas de valeur morale glorieuse, mais qui, entre eux, vont respecter certains codes et certaines façons de faire.
Donc ils n'ont pas de valeur morale, et est-ce que le prochain...
Le prochain distille des valeurs morales. Alors, c'est une bonne question. Le prochain s'appelle L'homme à la tête de lion par Xavier Coste chez Sarbacane. Et c'est un bouquin qui va parler des freaks et des freaks chauds. On va suivre donc l'homme à la tête de lion lui-même, un homme doté d'une pilosité particulière qui le fait ressembler à cet animal et qui erre dans un cirque depuis trois générations, un petit cirque en Europe, un truc un petit peu minable, et qui va être débauché par un grand patron de cirque aux États-Unis qui décide de le faire tourner. Il va devenir une star ou une bête de... une espèce de bête qu'on montre devant les gens et à qui on fait réciter des poèmes pour être en contraste avec son aspect sauvage. Sauf que voilà, quand on est dans des freak shows, la vie du cirque, est-ce que c'est vraiment ce qu'il veut? Est-ce que c'est là où il s'épanouit? Est-ce que c'est une façon de vivre ou pas? Donc il va y avoir en effet quelques valeurs morales qui vont être dites là. Et puis surtout, il y a une mise en page qui est très particulière. Xavier Coste, il sait vous faire des pages avec des cases, il sait vous faire des pages qui n'ont aucune case, qui vont être structurées sur complètement autre chose, qui vont être structurées sur des dessins, sur des couleurs, sur des bulles de dialogue, qui vont s'affranchir, qui vont passer en double page. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui va jouer avec son livre pour en faire un récit conséquent. C'est une grosse pagination, c'est un livre épais, et pourtant ça se lit en un rien de temps, et on est pris dedans directement, dès les premières pages.
Oui, c'est un livre épais, mais chaque page est un petit univers à lui tout seul. En
complètement. Fait. On a des jeux de couleurs, on a des jeux de trames beaucoup sur celui-ci, avec des espèces de griffonnés comme ça qui viennent vous structurer les dessins. On a des couleurs qui pètent, on a vraiment là Xavier Coste qui nous montre tout ce qu'il sait faire, et c'est vraiment agréable à ouvrir.
Surtout, il est toujours aussi à l'aise à la fois sur des doubles pages comme celle que j'ouvre actuellement, là, qui est la page 126-127, que sur des petites cases, des petits découpages, du dialogue. C'est tout vraiment un auteur virtuose.
Tout à fait. Et qui dessine hyper vite. Parce que celui-ci, ça fait même pas un an et demi qu'il le fait. Donc quand on voit la pagination, c'est impressionnant.
Un an et demi pour 200 pages.
Voilà.
Là, on change complètement d'univers.
Tout à fait. Et c'est une première BD. C'est une première BD et c'est une nouvelle collection. Puisqu'on va parler de Merel de Clara Lodewijk, ou Lodewijk, toutes mes excuses, c'est flamand. Et c'est dans la collection Les Ondes Marcinelles, c'est une des nouvelles collections de chez Dupuis, puisqu'ils ont lancé en cette fin d'année deux collections, Les Ondes et Les Ondines, qui sont des espèces de nouvelles collections de romans graphiques, alors Les Ondines pour la jeunesse, Les Ondes pour les adultes. Et là, cette première BD de Clara Lodewijk, Merel, ça va vous parler d'une femme qui habite dans un petit bled où il n'y a pas grand monde, tout le monde se connaît, elle élève des canards comme loisir, elle bosse un petit peu au journal du coin, et un jour, une rumeur va apparaître. Une rumeur que ça ne serait pas une femme bien, que ça serait une femme facile, et que comme elle est célibataire, et ben c'est tout simplement qu'elle passe d'homme marié en homme marié. Alors évidemment, comme tout le monde se connaît dans ce petit bled, ça va faire scandale. Tout le monde va se retourner contre elle, elle ne comprend pas tout à fait pourquoi au début, puis très vite elle comprend ce qui est en train de se passer dans son dos, et on va la suivre dans son quotidien à partir de ce moment-là, avec les relations qu'elle avait établies et qui s'écroulent, avec des nouvelles relations qu'elle va pouvoir essayer de construire sur des bases un peu plus saines, ou justement pas forcément très saines. Et ce qui fait plaisir dans ce livre-là, c'est que ça paraît être très dur au début, mais il y a des petites bulles de léger, et il y a une fin qui, elle, par contre... ne déprime pas trop, parce que des BD feel good, des BD qui vous mettent pas la tête sous l'eau, il y en a pas tant que ça, il y a beaucoup de BD un peu tristes en cette rentrée, donc là ça fait du bien d'avoir un truc un peu plus léger, mais pourtant tout à fait profond et tout à fait bien écrit.
Oui, ce qui est intéressant, c'est que je connaissais ni cette collection, j'avais entendu parler mais j'avais jamais vu, ni cette jeune autrice, si c'est son premier album.
C'est son premier album, ouais.
Mais effectivement, tu nous racontes une histoire un peu dure, et on a un trait qui est au contraire très doux, très... Ouais.
On pourrait rapprocher un peu de Camille Jourdi, pourrait rapprocher un peu de ce genre d'auteur qui sait faire du quotidien avec plein de petits détails, hyper évocateurs en quelques traits. On pourrait penser à Aude Picot un petit peu aussi dans ce genre-là. Et une mise en page qui est tout à fait agréable à suivre, hyper simple. Le récit absorbe très facilement le lecteur.
Ouais, et puis il y a un joli travail de couleur, je pense.
Tout à fait.
Qui a l'air simple, mais qui est très efficace et qui conduit bien l'histoire, visiblement. Mmh.
Donc une très bonne première BD, et du coup je lirai les prochaines de Clara Lodewijk.
J'espère. Alors après, un de mes auteurs, enfin je suis pas le seul d'ailleurs, hein, je crois que c'est un des très très grands dessinateurs de bande dessinée, Jérôme Briot, qui donc tes collègues libraires nous avait parlé de son précédent livre, Un travail pas comme les autres. Ça c'était il y a longtemps, avant le confinement.
Avant Covid, c'est ça, tout ça, une autre époque.
C'était un de ses cadeaux de Noël de 2019. Donc là, on est en 2022 et on retrouve Alex Inker.
Tout à fait. Et on le retrouve sur un registre complètement différent, avec un graphisme complètement différent. On le retrouve donc sur Colorado Train aux éditions Sarbacane. C'est adapté d'un roman de Thibaut Vermeau et c'est une BD d'horreur, une BD glauque, une BD noire, une BD horrible et pourtant une BD géniale. On va suivre une bande d'ados, alors ils sont tous un peu minables, ils viennent tous de familles problématiques, ils habitent dans un bled paumé des États-Unis, le genre de bled où personne vient jamais. Vous avez une gamine qui est fille battue, vous en avez un dont le père s'est barré, il est en cavale, vous en avez un qui clairement est accro à je ne sais quelle drogue. Bref, rien ne va dans ce bled, et ça va encore moins, puisque un des gamins de leur classe de lycée disparaît, et on en retrouve un bout, on en retrouve un bras, avec des traces de dents humaines, on finit par retrouver le reste du corps, et autant vous dire que c'est pas beau. Et la psychose commence, parce que ce petit bled, il est au pied d'une colline, où vous avez des tunnels et des tunnels et des tunnels de mines qui ont été creusés, et que le corps il est retrouvé là-dedans. Donc si quelqu'un s'y cache, eh ben, on ne le retrouvera pas tout de suite. Donc la psychose commence, il fait noir, les gens commencent à se demander qui ose bouffer des gamins et les démembrer, et un autre gamin disparaît. Sauf que ce gamin-là, c'est le frère d'un de nos personnages principaux et qu'il va falloir le retrouver. Je vous dis pas si on le retrouve entier ou pas, je vous laisse le suspense. Alex Hinker, quand il l'a présenté, alors qu'il venait d'annoncer ce bouquin, il a dit « viser l'incontinence du libraire qui lira son livre ». C'est vous dire le degré d'horreur, c'est hyper prenant, c'est fascinant. C'est un noir et blanc extrêmement puissant, extrêmement évocateur, avec des scènes à la fois hyper dures et en même temps très très claires en termes de dessin. On chope tout de suite le rythme du récit, on chope l'ambiance. On va tout de suite sentir le moment où on met les pieds dans un endroit justement un peu glauque, on sent qu'il y a va y avoir un truc dramatique qui arrive. Vous avez une BO qui est donnée à chaque chapitre et c'est une chanson. Et voilà, si vous vous mettez la playlist, vous vous mettez dans le bouquin, et ben, en effet, je pense que l'incontinence n'est pas loin.
Surtout, chaque fois qu'on ouvre un nouveau livre de Hinker, on se dit mais quel génie du dessin et de la bande dessinée, parce que chaque livre est dessiné dans un style absolument différent.
Il a une facilité à changer et de style et de ton qui est assez épatante.
Servir le peuple, c'était quelque chose de fantastique. Un travail pas comme les autres, c'est encore autre chose, encore une autre histoire, encore une autre technique. Et là, on est sur du noir et blanc, pratiquement de la gravure, en tout cas.
Et en dehors du côté horreur, il y a un discours très intelligent derrière, alors qu'il apparaîtra à la fin, donc je vous en dis pas trop. Mais il y a un discours sur la guerre. Sur la guerre et les traces qu'elle peut laisser chez les gens.
En tout cas, la presse en parle beaucoup. Ça, effectivement, ça va être une des grandes sorties de cette fin d'année. Voilà, encore autre chose de totalement différent, très coloré.
Oui, j'aime bien.
On est plus dans la jeunesse.
Tout à fait. BD jeunesse. Une BD jeunesse qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Lightfall. Le tome 2 vient de sortir. C'est chez Gallimard. C'est une traduction de l'anglais. L'auteur d'origine s'appelle Tim Probert. Et c'est une grande saga de fantasy, accessible dès 8-9 ans, selon le niveau de lecture. Mais même adulte, pour le coup, la richesse du récit fait que adulte, on se laisse accrocher et on s'ennuie pas du tout. C'est hyper coloré, c'est hyper mignon, c'est hyper joli, et c'est surtout très profond. Donc vous allez suivre une jeune fille qui habite avec son grand-père. Alors son grand-père est un espèce de cochon magicien. Son grand-père est vieux, son grand-père perd la tête, et un jour il disparaît. Et c'est le moment où la petite va se rendre compte que, elle qui a vécu en ermite dans la forêt depuis toujours, le monde entier l'angoisse, les décisions l'angoisse, partir à l'aventure l'angoisse. Et par-dessus tout ça, elle apprend que son grand-père lui a légué un objet à protéger. Cet objet, évidemment, il est très important. Et on va découvrir pourquoi au fur et à mesure du récit. Mais du coup, on va suivre cette toute jeune ado partir à la découverte du monde et à la recherche de son grand-père. Alors que le monde, il est pas facile. Et que contrairement à ce qu'on pense, partir à l'aventure quand on est enfant, ça se fait pas aussi facilement que dans Pokémon.
Je connaissais pas et c'est très très beau.
C'est très beau, c'est très bien raconté. Il y a vraiment une profondeur de dialogue. Aussi dans la façon dont les personnages sont faits, sont posés, vont se rencontrer les uns les autres. C'est une BD où nous on a des petits qui nous réclament le tome 2, mais depuis la sortie du tome 1, donc il y a 2 ans, c'est vraiment un truc où on revient avec très grand plaisir. Ça sera en 3 ou 4 volumes, et on attend la suite pour le coup. C'est vraiment...
Et les tomes se suivent ou c'est des histoires séparées?
Les tomes se suivent, c'est pour le coup, vous n'avez pas des tomes autoconclusifs, c'est vraiment des suites, donc ça fait vraiment grande saga de fantasy.
Ouais, c'est vraiment très beau. Hein. Mm-hmm. On arrive presque à la fin, last but not least.
Tout à fait. Un petit côté comics américain, ça fait toujours plaisir. Puis il y a des très bonnes choses, dont ça, le deuxième tome de The Magic Order, de Mark Miller et Stuart Immonen. Alors le volume 1 a été dessiné par Olivier Coipel, qu'on connaît bien en France. Magic Order, donc vous êtes dans du comics américain, évidemment il y a des super pouvoirs. Là on a affaire à un clan de magiciens. Dans le premier volume, ce clan de magiciens se voyait confronté à un problème d'héritage. L'objet qu'ils avaient à protéger était convoité par d'autres, parce que ce clan de magiciens commence à se déliter un peu... entre une fille alcoolique et un frère traumatisé. Ils arrivaient à défendre évidemment leur grimoire, je vous en dis pas plus, faudra lire le tome 1 si vous l'avez pas lu. Et là, le tome 2 va faire confronter ce clan qui a évolué depuis et qui va se retrouver aux prises avec des choses bien plus anciennes que tout ce qu'on pouvait nommer. Des monstres venus d'il y a des millénaires, des malédictions très très anciennes. Donc on est dans du comics américain pur jus, un graphisme hyper plaisant, hyper dynamique, des cases qui s'enchaînent, des couleurs très pop. Mais surtout, on est dans du Mark Millar, et Mark Millar il a quand même ce don pour vous accrocher en quelques pages, pour vous faire des espèces de trucs d'aventure comme ça qui vont à 10 000 à l'heure, qui vous donnent envie de tourner toutes les pages et de pas arrêter. Et c'est encore une fois extrêmement efficace, extrêmement réussi. Si on compare avec Harry Potter, on est clairement dans du Harry Potter pour adultes. Hein. Ça, disons que les sorts vous font exploser des corps humains et gicler des trucs bizarres. Donc,
Oui, c'est ce que je vois, il y a des pendus, il y a pas mal de fantaisie. Et alors, je crois que tu nous as réservé une petite... qui n'est pas dans la pile encore, mais une petite...
Alors, qui n'est pas dans la pile parce qu'il n'est pas sorti, mais à la fin de l'année, sort le nouveau livre de Rochette. Rochette, c'est le monsieur qui a fait Transpersonnage, Elle Froide qui a fait Le Loup, donc c'est un grand grand de la BD. Et il sort une nouvelle BD à la fin d'année qui s'appellera La Dernière Reine. Et, sauf que cette BD est tellement belle, tellement magnifique, que je vais en parler, même si vous ne pouvez pas encore l'acheter pour l'instant. La Dernière Reine, ça va vous parler de montagne, bien sûr, parce qu'après Elle Froide et Le Loup, Rochette, on le connaît dans la montagne, mais qui va vous parler aussi Gueule Cassée, juste après la Première Guerre mondiale, qui va vous parler Art Brut, qui va vous parler prothèse de visage, qui va vous parler histoire d'amour, qui va vous parler aussi de jalousie, de délation, de tout plein de choses qui vont s'en mêler. Et ça fait un super récit qui commence avec un homme désespéré que plus personne peut voir parce qu'il a plus de visage, et qui finit avec une grande fresque sur le lien entre l'homme et la nature, l'importance de l'art dans la vie, et le tout avec un dessin évidemment absolument sublime. Donc voilà, La Dernière Reine, ça sera chez Casterman, c'est signé Rochette, et ça sortira en fin d'année. Et pour Noël, ça peut être une très 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 bonne idée.
Eh bien, chère Ariane, merci beaucoup de ce panorama.
On a donc,
donc 6, 7 albums. Je mettrai sur le site de la radio les titres, les couvertures, les prix, les paginations, les éditeurs, les auteurs, et tout ce qu'il faut pour les retrouver à la librairie Vignette, par exemple.
Tout à fait, sachant qu'on reçoit quelques auteurs parmi ce que je vous ai cité. Alex Sinker et Xavier Coste seront à la librairie en novembre.
Oui, il y a tous les... je mettrai là aussi l'adresse du site internet de Canal BD, donc qui est le groupement de libraires auquel la Vignette est affiliée. Il y a le programme des dédicaces, le programme des réjouissances d'ici Noël.
Conférences, dédicaces, expositions, en fait, tout plein de choses.
Oui, parce que dans la librairie, il y a un tout petit espace exposition.
Ouais.
Qu'il faut venir visiter.
Qu'on aménage et qu'on change. Et il y a une deuxième salle qu'on vide de ses meubles et dans laquelle on fait des grandes conférences. On en fait plusieurs là dans les semaines qui viennent. Donc
un petit centre culturel, le bande dessinée, dans le 19e arrondissement. Je te remercie vraiment beaucoup et je te dis à très bientôt.
Et merci Stéphane.
Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil.
Waouh!
Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.